À l'école, quand les animaux, par exemple, ils marchaient, on faisait à peu près comme ça.
En fait, c'était en musique.
Quand le loup marche, c'est... Il est méchant, donc on fait grave et...
Je ne connais pas du tout.
Ah oui, si, vas-y, attends.
Non, mais c'est un petit garçon.
Oui, c'est ça.
Avec son grand-père, qui ne doit pas aller dehors.
Le papy, il n'est pas d'accord, parce qu'il peut se faire manger par le loup.
Puis à un moment, il va se retrouver dehors, il va monter dans un arbre, mais il ne tue pas le loup. Et il l'emmène dans un zoo. Non, je sais plus.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'homme est un loup pour l'homme. C'est une phrase célèbre attribuée au philosophe Thomas Hobbes. Si vous voulez crâner un peu, dites-la en latin. Homo homini lupus. Mais moi, je l'aime pas tellement, cette citation. D'abord parce qu'elle oublie la moitié de l'humanité, où sont les femmes. Et surtout parce qu'elle ressasse l'idée que le loup serait méchant. C'est toujours sur lui que ça tombe. Qu'a-t-il fait pour mériter un tel sort, ce pauvre canidé? Il y a bien d'autres prédateurs, autrement plus terrifiants, c'est agaçant à la fin. Sauf que nous allons nous intéresser aujourd'hui à un enfant qui n'a pas peur. C'est son grand-père qui est terrifié. Pierre et le loup, voilà le monument auquel on s'attaque. Un conte musical de Sergueï Prokofiev. L'histoire d'un petit garçon qui réussit là où les adultes échouent. Quoi de plus satisfaisant? C'est surtout un excellent prétexte pour faire connaissance avec les instruments de l'orchestre. Or, le loup est représenté par des cors. Et franchement, qui a peur des cors? Ces instruments à vent tout ronds et si jolis. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Cette émission est préparée par Anne-Sophie Dazard, réalisée par Christophe Humbert et Elisabeth Collet est à la technique. J'ai le grand plaisir d'accueillir deux invités. L'une est ici en studio, l'autre à distance depuis Lille. Bonjour Clémentine Beauvais.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes écrivaine, vous écrivez notamment des livres pour les ados, Songe à la douceur et plus récemment Âge tendre, tous les deux aux éditions Sarbacane, je recommande vivement. Mais si vous êtes là aujourd'hui, Clémentine Beauvais, c'est surtout parce que vous avez écrit cet autre livre, La Louve, chez Alice Jeunesse, un album pour les enfants plus jeunes, à partir de 4-5 ans, je dirais. Un livre absolument hypnotique. Les illustrations sont signées Antoine Després. Est-ce que ça fait peur, quand on écrit pour les enfants, de s'emparer de ce mythe du loup, de mettre un loup dans son histoire ?
Non, c'est hyper jouissif, surtout de contrebalancer un peu justement ce que vous dites de cette peur du loup, de jouer avec en fait. Hein. On va s'approcher de plus en plus de la louve au fur et à mesure de l'histoire jusqu'à la toute fin et être vraiment très 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 près. Et donc non, ça fait pas peur, mais c'est très chouette de le lire en classe et d'entendre les enfants qui ont un peu peur quand même.
Et dans cette histoire-là, on a eu tort d'avoir peur du loup en l'occurrence.
Peut-être, elle est un peu menaçante, peut-être pas tant que ça.
Mon deuxième invité est en duplex depuis les studios de France Bleu Nord à Lille. Bonjour Alexandre Bloch.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes chef d'orchestre, directeur musical de l'Orchestre National de Lille. À la tête en ce moment, crise sanitaire oblige, d'une salle de concert numérique. Alors vous avez accepté cette invitation parce que vous aimez beaucoup Pierre et le Loup. Est-ce que vous avez peur des cors, Alexandre Bloch?
Toujours. C'est un instrument, je crois que c'est l'instrument, pas le plus exceptionnel, mais le plus particulier de l'orchestre. Mmh. Parce qu'ils sont dans une catégorie, j'aurais envie de dire, un petit peu à part. Puis c'est un instrument aussi qui est vraiment très difficile à jouer et le psychologique joue beaucoup pour jouer la bonne note. Et du coup, en tant que chef d'orchestre, en effet, quand on dirige un corps, je crois que c'est le plus dur en fait.
Ça m'a fait de l'effet là de faire signe à Elisabeth Collet pour qu'elle envoie le son du corps. Je me suis sentie un peu chef d'orchestre. C'est donc le loup hein, dans l'histoire de Prokofiev.
Tout à fait, c'est le loup. J'entendais votre dans le premier micro-trottoir qu'on a entendu au tout début de l'émission, il y en a un petit enfant qui disait « Ah oui, quand les animaux ils marchent comme ça », je pense qu'il parlait de la fin avec cette fameuse marche triomphale où on va amener le loup au zoo. Mais ça, c'est assez jouissif de tiram pam pam pam. Enfin, c'est vraiment, il y a quelque chose de magique et qui reste. Hein. Même moi, encore grand enfant, on va dire, j'adore ce passage.
Ne commencez pas par la fin. fin, je vous en prie. Donc, une romancière et un chef d'orchestre réunis aujourd'hui pour parler de Pierre et le Loup. C'est un conte musical écrit et composé en 1936 par Sergueï Prokofiev, compositeur russe qui a vécu une partie de sa vie en France. Et la particularité, en effet, c'est que chaque personnage est incarné par un instrument. On va faire un petit jeu, si vous le voulez bien, tous les deux, Clémentine Beauvais, Alexandre Bloch, un test à l'aveugle. Vous devez me dire de qui il s'agit. Vous êtes prêts? On y va. Oui, qui oui. est-ce? Bon, c'est de la triche, hein, le chef d'orchestre va gagner.
Ah, déjà l'ai dit, c'est pas juste.
Allez-y, non, Alexandre Bloch.
Clémentine, je vous laisse.
Non mais en plus, c'est intéressant que vous nous fassiez ce jeu parce que c'est exactement la raison pour laquelle je n'aimais pas Pierre et le Loup quand j'étais petite. C'est que c'était constamment sous forme de test. Et quoi, quand je me suis souvenue pour la première fois depuis très longtemps de Pierre et le Loup, quand vous m'avez demandé de participer à cette émission. Et en fait, un souvenir qui me revenait, c'était le côté didactique de cette chose qu'on nous présentait au solfège. Il fallait retrouver les instruments. Mmh. Et en fait, c'était super difficile. Et même quand on pensait... Donc là, je suis prise du même track, en fait. Canard,
rassurez-vous. Mais oui, c'était le canard. C'était le canard, c'était le hautbois.
Je sais parce que je l'ai potassé ce matin avant de venir. Et la semaine dernière aussi. Depuis, je sais ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de dire qu'il y a un côté stressant en fait dans Pierre et le Loup dans la présentation aux enfants, souvent qui en est faite.
Bon, je vais vous stresser encore un tout petit peu. Un autre personnage. Allez, cette fois c'est le chef d'orchestre qui répond. Alexandre Bloch.
Le grand-père Basson de l'histoire. Mais ce qui est assez d'ailleurs exceptionnel, c'est que, en fait, est-ce que c'est Prokofiev qui nous a fait dire, bah oui, évidemment que le Basson, c'est grand-père, ou alors déjà l'instrument avait envie de parler du grand-père
et ça paraissait évident. Y avait-il déjà un grand-père dans le Basson?
Oui, voilà, enfin franchement, je me suis toujours posé la question, dans quel sens c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, quoi.
Et lui alors, c'est qui? Clémentine Beauvais?
C'est le chat, ça, non?
Bien joué, la clarinette, c'est le chat. Un autre personnage? À votre tour, Alexandre Bloch.
Ben, c'est l'oiseau, ami de Pierre.
Et quel instrument?
Ah, c'est la flûte, bien sûr, la flûte traversière.
Ça, c'est les méchants.
Je pense que c'est en fait...
ça, c'est les méchants.
Voilà, c'est peut-être celui-là qui fait le plus peur, finalement. Ouais.
Voilà, les chasseurs, la grosse caisse et les timbales font beaucoup plus peur, effectivement, que le loup. Hein. Ça, c'est intéressant de le signaler. Un petit dernier, parce qu'il ne s'agirait pas de l'oublier, celui-là. Et là, c'est moi qui réponds. C'était le petit Pierre, évidemment, joué par les instruments à cordes. Alexandre Bloch, est-ce que vous auriez fait, vous, le même casting, si j'ose dire? Les associations entre les personnages et les instruments vous semblent-elles parfaites ou est-ce que vous auriez fait d'autres choix?
Je vois pas une autre possibilité, mais peut-être simplement parce que j'étais tellement biberonné à Pierre et le Loup que c'est ancré en moi, en fait. Mmh. La flûte, c'est l'oiseau, et puis le canard, c'est forcément le hautbois, les instruments en double, le cor anglais, etc. Donc voilà, c'est même culturel, en fait, même peut-être presque.
D'ailleurs, je me posais la question, la personnalité des musiciens et des musiciennes est-elle à rapprocher de celle de leur instrument, parfois, Alexandre Bloch? Si effectivement, les instruments ont des personnalités, peut-être les musiciens aussi, non? Les violonistes seraient plus comme ceci et les joueurs de cors plus comme cela?
Oui, alors c'est difficile de faire des généralités, mais il y a clairement une sociologie dans l'orchestre, simplement qui est due aussi, par rapport à leur compagnon musical de tous les jours, quelle est la posture avec laquelle ils étudient tous les jours lorsqu'ils travaillent leur instrument, et de quel organe ils se servent. Est-ce que c'est plutôt le souffle? Est-ce que c'est plutôt le bras? Est-ce que c'est le poignet? Est-ce qu'ils sont plutôt assis? Est-ce qu'ils sont plutôt debout? Donc, en effet, ça forge beaucoup des caractères, et puis il y a certains caractères qui se ressemblent avec les instruments qui sont les mêmes. Donc évidemment, il y a une certaine sociologie de l'orchestre, mais bon, faut pas non plus faire une généralité. Mmh. Il y a de plus en plus de diversité dans les orchestres maintenant.
Voilà, vous allez pas nous dire qui sont les méchants dans l'orchestre.
Je m'aventurerai pas là parce que je me dis qu'il y a peut-être un ou deux musiciens qui peuvent m'écouter, ils seraient pas contents.
Sur un malentendu.
C'est le chef d'orchestre, en fait.
Voilà, c'est ça, exactement. Bonne réponse, Clémentine, merci.
Clémentine Beauvais, là, il y a un matériau romanesque, hein, quand même, derrière cette idée que chaque instrument a une personnalité.
En fait, c'est vraiment une idée géniale et, évidemment, je vais réviser mon jugement de tout à l'heure. En effet, j'ai des souvenirs stressés et stressants de Pierre et le Loup, mais en le réécoutant, j'en ai vraiment perçu le génie beaucoup plus que quand j'étais petite. Et c'est vrai que l'énergie romanesque, déjà de l'histoire qui est quand même très forte toute seule, mais en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on imagine des albums, on voit qu'il y a la dimension visuelle et on regarde l'image et on s'en imprègne, mais là, ça demande un effort d'imagination de la part de l'enfant qui est vraiment d'attribuer une personnalité à un son sans parole. Et
donc le fameux test à l'aveugle qui vous faisait peur.
Mais parce que, en fait, c'est pas naturel de tester sans avoir l'histoire juste avant, en fait. Mais quand on entend le canard, ça avance vers la mare, dans l'étang, enfin vers l'étang, dans la prairie. Et là, on entend et on dit mais oui, et on le voit dans sa tête. Et ça, c'est vraiment un effort d'imagination fabuleux, quoi.
Écoutons un extrait, évidemment. François Morel et l'Orchestre National de France. Alors, Pierre n'a pas le droit de sortir de chez lui parce que le loup pourrait venir. Hein, son grand-père s'inquiète. Son grand-père, finalement, a peur à sa place. Mais Pierre va désobéir, il sort quand même. Il joue avec le canard et avec l'oiseau qui sont ses amis quand soudain arrive le loup. Le canard tente de s'échapper mais le loup court beaucoup trop vite. Alors il avale le canard d'un coup. Pierre dit alors à l'oiseau de voltiger autour de la gueule du loup.
Barbatruc sur France Inter.
Oh, que l'oiseau agaçait le loup et que le loup avait envie de l'attraper. Pierre décrocha une corde de son violon et la descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces.
Il y a un lasso dans cette histoire. Est-ce notamment pour ça que le récit est aussi puissant, à votre avis, Clémentine Beauvais?
Ouais, le piège, il est très fort. C'est un peu aussi la fin des trois petits cochons avec le loup qui tombe dans la cheminée et qui arrive directement dans l'eau bouillante. C'est très cruel, mais en fait, c'est ce qu'il faut pour un loup dans un conte. Dans un conte traditionnel, le loup doit se faire piéger d'une manière ou d'une autre et l'intelligence doit triompher de la force brute. Et c'est un peu ce que représente Pierre par rapport au loup. C'est celui qui réfléchit et qui pense au truc qui vient du ciel auquel le loup n'aurait pas pensé et qui peut pas s'échapper, quoi.
Alexandre Bloch.
Évidemment, il y a l'imaginaire de tous les auditeurs, et évidemment des enfants lorsqu'on associe un personnage avec un son. Mais je trouve qu'il y a aussi tout un univers de situations qu'on vient bien entendre et qu'on aurait même entendu encore avec l'extrait d'avant lorsque justement le canard court et se fait finalement manger. Mais on se croirait dans un opéra, en fait, ici. C'est tellement prenant, tellement tragique, même si après, du coup, la musique se radoucit et tout ça. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une musique de film, presque.
Vous avez des souvenirs d'enfance autour de cette scène, le loup qui mange le canard ?
Ce que je me rappelle, c'est un dessin animé, je crois, de Walt Disney, où on voit un petit Pierre en russe avec une chapka, je crois, et avec justement le canard qui, d'ailleurs, avait un nom dans ce dessin animé, mais je me rappelle plus. C'était un canard femelle, et oui, en effet, qui se fait manger à ce moment-là, où on voit les plumes qui dépassent de la gueule du loup après.
Sonia, la canne, je crois, c'est ce qu'on
Sonia,
suggère
exactement,
en régie.
Oula,
le cri du cœur. Clémentine Beauvais, vous opinez du chef. Vous vous souvenez aussi de ce dessin animé?
Je le connaissais pas, je l'ai regardé la semaine dernière. Je le trouve très marrant, et ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Alexandre, c'est qu'en fait, moi, en le réécoutant, un truc qui m'est venu à l'esprit, c'est Tex Avery. C'est bizarre, hein, de le dire comme ça, mais c'est vrai que je pense qu'on a été habitué au cours du XXe siècle à percevoir ces musiques extrêmement comme ça expressives et narratives comme faisant partie de l'univers du dessin animé, surtout pour les gens qui regardent énormément la télé, des films, etc. Comme moi quand j'étais petite, je pense que c'était plus ça que je convoquais dans mon imagination. C'est marrant comme ces traditions se parlent, se répondent à travers le temps.
Il y a eu beaucoup d'adaptations effectivement en images de cette histoire, mais les images, vous les aviez déjà en tête finalement?
Ben oui, je pense qu'en fait on extrapole par rapport à ces sons-là quand on est petit, puis même quand on est plus grand, on apprend à voir, à visualiser la musique, ce qui est quand même un miracle quand on y pense.
C'était Barba Gallo dans Barba Truc, un choix du facétieux Jean-Baptiste Audibert.
Dorothée Barba, France Inter.
Et nous parlons de Pierre et le Loup cette semaine. Conte musical conçu pour être lu accompagné d'un orchestre, œuvre de Sergueï Prokofiev, Alexandre Bloch, chef d'orchestre et mon invité en duplex de Lille, et Clémentine Beauvais, écrivaine, est ici en studio. Écrivaine pour les enfants, pour les ados et pour les adultes. Alors pourquoi est-ce que c'est toujours sur le loup que ça tombe? Est-ce un animal méchant? Voilà une question qui interpelle les enfants et les ados.
J'étais partie en voyage et j'en avais vu un loup. Il était orange ou un peu orange et tout. Non, c'était un loup. Et il était en train de nous regarder. Il était petit parce que dans ce pays-là, les loups, ils sont petits. Une histoire que ma maîtresse m'a racontée, c'est Wang des loulous.
Ah bah oui.
C'était un loup qui faisait poursuivre. Pas tout à fait. Dans des histoires, le loup, il est gentil. Quand il est adopté,
bah dans les villes, on voit souvent des loups venir attaquer certains villageois, je pense. Et dans les contes aussi, dans les anciens contes. Dans certains contes africains que j'ai lus, bah les loups, c'est souvent des monstres, des bêtes qui attaquent la nuit et puis qui sont sanguinaires. Puis voilà.
Après, moi, je pense que c'est parce que les loups sont sauvages, féroces, et donc on en fait une version négative.
Ça représente la méchanceté.
Il est carnivore. Il aime les petits cochons, les humains. Il aime manger.
C'est un glouton.
Ouais, on a le stéréotype du loup qui vient manger les moutons dans la montagne, les brebis. Mm.
C'est parce que son cri, il est connu, donc du coup, quand on entend un cri de loup, bah, on dit il faut pas aller dans la forêt. Enfin, je sais pas. C'est...
Oui, surtout les loups, c'est la nuit qu'ils attaquent en fait.
Aou.
Aou. Souvent, les gens ont peur de tout ce qui se rapporte à la nuit, au noir, à ce qu'on connaît pas. Et les loups, comme on les connaît pas trop, vu qu'ils sont sauvages, bah, on a tendance à les animaliser, si j'ai envie de dire.
Ils me font peur. c'est parce que parfois, je sais pas. C'est parce que je sais pas.
Et parce qu'un loup, c'est méchant.
Mais les loups, ou ils me font peur dans les histoires, alors j'ai peur.
Voilà, merci à Mauro pour cette jolie tautologie. Hein. J'ai peur, alors j'ai peur. Et merci à notre reporter Juliette Proutot pour ces très jolies paroles d'enfant. On a entendu le mot stéréotype prononcé à l'instant, Clémentine Beauvais. Alors, je me tourne vers vous parce que vous êtes aussi chercheuse en littérature jeunesse. Est-ce qu'il faudrait se débarrasser de ce stéréotype et arrêter de mettre des loups dans les histoires pour enfants ?
Il y a des stéréotypes qui ont du bon narrativement, c'est-à-dire qu'un loup, en fait, comme beaucoup de personnages de contes, c'est toute une évocation. C'est-à-dire que quand on dit loup, on n'a pas besoin de dire méchant, sauvage et la nuit, et ça fait peur. C'est contenu dans le mot loup, dans cette évocation-là.
Il y a une économie de mots.
Ouais, et puis c'est comme ça que fonctionne le conte, et c'est ça qui est aussi fascinant aussi, c'est que dans un conte, on n'a pas énormément de descriptions, on n'a pas énormément d'émotions qui va passer à travers les mots. On va avoir de l'émotion et tout ça qui va passer à travers des figures comme ça. Alors on peut appeler ça des stéréotypes, mais on peut aussi appeler ça peut-être plus fructueusement des archétypes, c'est-à-dire des figures qui durent depuis très 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 longtemps, et le loup depuis très 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 longtemps incarne ce mal absolu contre lequel les adultes mettent en garde et qu'il faut chasser, tuer, etc. Alors après, est-ce qu'il faut changer les stéréotypes ? Je pense que là, il y a une question politique qui se pose par contre, c'est que ouais, quand on a un truc comme Pierre et le loup, ou comme beaucoup beaucoup de contes qui parlent du loup comme un animal méchant, etc., ça fait que dans la vraie vie, il y a des gens qui peuvent se dire les loups, c'est méchant. Et ça, c'est un côté politique du conte dont on peut parler aussi, mais archétypalement, c'est très efficace.
C'est quelque chose que vous avez en tête, l'aspect politique, lorsque vous écrivez, lorsque vous inventez des histoires ?
En fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de ne pas. Et en fait, à partir du moment où on va renverser des archétypes, comme celui du loup, par exemple, bien sûr qu'il y a une portée politique qui est immédiate. C'est-à-dire que si le loup triomphe à la fin, si le loup raconte sa propre version de l'histoire, comme ça peut être le cas dans certains contes de fées nouveaux, on va dire, si le loup et le petit chaperon rouge finissent par faire ami-ami, enfin tout ça, ça a forcément une portée politique, donc on se pose forcément la question. Mais moi, honnêtement, avec Prokofiev, je me demande s'il y avait déjà pas quelque chose qui s'était posé, parce que pourquoi il termine au zoo ? Bon, c'est pas cool pour le loup de terminer au zoo, mais ça pourrait être pire. Il pourrait terminer dans une marmite d'eau bouillante comme au bout d'une cheminée. Et donc, peut-être qu'il s'était déjà dit, on va pas faire un truc trop gore pour le loup à la fin.
Et dans votre album jeunesse aux éditions Alice la Louve, Clémentine Beauvais, au début, on a peur et puis on s'aperçoit que cette louve, c'est peut-être une bénédiction pour le personnage principal, pour la petite Romane qui n'a pas de famille, qui n'a pas de parents. Elle est orpheline et peut-être ça peut être le salut pour elle de rencontrer des loups.
Oui, ça reste une menace forte et je pense que c'est important aussi de jouer sur cette part d'ombre du loup parce qu'elle elle reste très présente. Ça suffit pas de dire oui, il est très gentil avec tout le monde et il arrête d'être carnivore, quoique c'est le cas dans Marlaguette. En tout cas, c'est intéressant de jouer avec cet archétype, mais parce qu'on joue avec l'archétype et on est très au courant de ce qui convoque chez la plupart des enfants.
Alexandre Bloch, on rappelle que dans cette histoire, le loup est incarné par les corps. Est-ce que c'est un instrument qui éventuellement pour faire peur aux enfants ? Certains instruments de musique sont un peu impressionnants pour les plus jeunes.
Je crois qu'il n'y a pas que l'instrument qui fait cet effet aussi. Là, c'est le thème qui est utilisé, je dirais même les harmonies. C'est le seul, avec Pierre, donc Pierre et le loup, donc c'est les deux seuls personnages qui ont un thème qui est à plusieurs voix. Vous avez entendu l'oiseau, la flûte, on n'entend que la flûte. Le hautbois, le canard, on n'entend que le hautbois. Le chat avec la clarinette, on n'entend que la clarinette. Pareil pour le basson et le grand-père. Mais Pierre, on entend toutes les cordes, c'est-à-dire qu'il y a les violons qui font un thème, c'est accompagné des violons d'eux, des altos, des violoncelles, des contrebasses. En fait, ça crée une certaine structure, une certaine ambiance, d'une tonalité, d'une ambiance, est-ce que c'est serein et tout ça. Donc, le thème de Pierre, on va dire, est serein, peut-être un peu malicieux et tout ça. Et celui du corps, lui, est plus inquiétant. Et c'est vraiment le thème qui fait ça, c'est-à-dire on utilise des tonalités plus inquiétantes, des voix qui sont vraiment parallèles les unes avec les autres. Et on a vraiment l'impression de trois serpents sinueux, je vais pas parler d'un autre animal, mais qui bougent ensemble et donc du coup qui ont fait une entité qui est le loup.
Ce que vous dites, c'est que la peur, elle est aussi bien dans la partition que dans le choix des instruments.
Complètement.
Mais au fait, à quoi ça sert la musique dans les histoires ? Juliette Proutot a posé la question à des enfants.
Comme musique, j'aime bien quand ils chantent Pierre et le loup, c'est parce que je trouve que c'est beau.
Et voilà, ouais. Il y avait toujours une petite musique sur les petites cassettes quand on écoutait ces contes.
J'aime bien la musique, les chansons elles sont bien.
Oui, c'est pas mal. Je donnais
une caractéristique en plus au personnage, en fait.
Une musique au personnage. Oui. Et quand du coup on l'entend, après on se dit, ah tiens, c'est ce film-là.
Ça permet de faire citer, par exemple, on pense à ça. Ah oui, la musique, c'est un... Voilà.
Et puis, par exemple, pour prendre l'exemple du loup, on peut définir dans les histoires pour enfants qui est le méchant et le gentil, en accentuant la musique à cet instant, parce que je me souviens que quand j'écoutais des histoires où c'était le loup, le méchant, souvent quand le loup arrivait, on entendait « tatin, 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 tatin ».
Pour savoir que les loups, ils sont méchants parfois, quand on les embête.
Oui, le hautbois, là.
Oui, le hautbois. Le chant de l'oiseau, souvent, il ressemble à de la flûte.
Très aigu en méchant, je dirais.
Ouais.
Très aigu et à la fois très grave.
Non, très grave.
Très aigu et très grave.
Ouais, très personnage.
Ou la basse même.
La basse,
ou la grosse caisse de la batterie, par exemple.
Ouais, la
et aussi, ça, je pense que ça dit un peu le gentil et doux et fragile et le méchant est dur et féroce.
Moi, je crois que j'aime deux instruments. La batterie et la guitare électrique.
C'est pour qu'on aime plus. Hein. Faut qu'il y ait de l'auditif dedans.
Par Patrick.
Revenons-en à l'histoire, si vous le voulez bien. C'est toujours François Morel qui raconte avec l'Orchestre National de France. Pierre a donc attrapé le loup avec son lasso. Les chasseurs se mettent à tirer des coups de fusil, mais Pierre leur dit d'arrêter. Il a déjà attrapé le loup avec ses amis.
Et maintenant... Admirez la marche triomphale. Pierre en tête. Père, mécontent, hochait la tête en disant « Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ?» Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant gaiement. « Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé !» Si vous écoutez attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant.
Elle est impressionnante, cette procession, cette marche triomphale, Clémentine Beauvais. Est-ce l'histoire d'un rituel de passage à l'âge adulte ?
Ah bah oui, enfin vraiment de manière encore une fois archétypale, c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a l'intelligence et la ruse et aussi l'amitié, hein, parce qu'il l'a quand même fait avec le petit oiseau qui a, il a aidé, il faut s'en souvenir du rôle du petit oiseau.
C'est un beau travail d'équipe.
Et puis il a prouvé à son grand-père qu'il était capable de faire quelque chose. Alors le grand-père il est un petit peu bougon en mode ouais non mais franchement t'aurais aussi pu ne pas l'attraper, ce qui est vraiment une non-réponse totale à ce qui s'est passé. Mais bon, donc le grand-père est pas tout à fait content, n'empêche que c'est le grand-père qui représentait l'interdit, qui était là non mais ne sors pas, c'est dangereux, et lui il a dit bah non regarde ce que j'ai fait. Et puis en plus, tout est bien qui finit bien parce que le canard est apparemment vivant.
Vous avez du mal à y croire, j'ai l'impression.
Bah, c'est-à-dire que dans les contes de fées adaptés à un public enfantin, on part du principe que les principes basiques de la digestion peuvent être niés pour préserver
N'oubliez
l'intégrité physique des participants. Petit chapeau rouge, pas de perro, mais des autres. Ce canard est très vivant, on l'entend symphoniser depuis l'estomac du loup. Mais ouais, bien sûr, c'est vraiment le symbole d'un rite de passage qui est fait très très triomphalement, hein, vraiment à la fin.
Y voyez-vous une apologie de la transgression? Il a bien fait de ne pas obéir à son grand-père, Pierre.
Bah, c'est pas vraiment à moi de le dire. Je pense que ça va dépendre des époques et que l'interprétation de cette fin, elle va être différente selon le moment où on en est. Honnêtement, je pense que maintenant, et enfin encore une fois, on verse un peu dans le politique, mais avec tout ce qui se passe en termes de parti animaliste, antispéciste, etc., il y a une sorte d'inconfort avec cette fin, non? Parce qu'il arrive, bah, il l'emmène au zoo.
Déjà, il le laisse
très content.
Il lui laisse
dehors.
La vie sauve. Bon, effectivement, il l'emmène au zoo.
Mais
pas
bon,
chouette.
Enfin, il l'emmène au zoo et puis le loup, pour le coup, il a vraiment fait ce que les loups font, quoi. Il a mangé un canard. C'est quand même normal. Et donc, on peut se demander, est-ce que c'est pas aussi le triomphe d'une certaine force brute humaine sur l'environnement naturel? On a quand même des trucs extrêmement domestiqués, un canard, un chat, un petit garçon qui transgresse des murs pour aller quelque part, pour aller attraper la force brute de la nature, et qui va l'enfermer, le mettre dans une boîte, et tout le monde est très très content. Enfin, maintenant, je trouve que ça interroge cette morale, entre guillemets.
Allez, nous poursuivons dans un instant cette exploration de l'univers magique de Prokofiev. Voici d'abord Georgia Smith sur France Inter. She knows what's in it, she knows what's wrong. She just can't quit it, her heart's so numb. Hers to live it, but what's to run? Waits for the nighttime, there's no fun. Got a call. You lied about your work and I haven't seen you in months. There's no light in your eyes and she won't open them. The hardest thing, you are not addicted to me. I'm the only thing you should need. You should be addicted to me. Drink just not to care, not care just to drink. Can that be enough and not take too much? The hardest thing, you are not addicted.
Barba sur France Inter.
C'est l'histoire d'un violon qui est copain avec un hautbois et une flûte. Un violon qui n'a pas peur des cors. Mais le basson, lui, aimerait bien que le violon fasse un peu plus attention. Nous parlons de Pierre et le loup ce dimanche. Alexandre Bloch, chef d'orchestre, directeur musical de l'Orchestre National de Lille. Et Clémentine Beauvais, écrivaine, sont mes deux invités. Alexandre Bloch, je rappelle que vous êtes en duplex depuis Lille. Quel est votre regard sur cette marche triomphale à la fin de l'histoire ?
Eh bien, en fait, il y a un petit secret de composition dans cette marche triomphale, parce que la première chose qu'on entend, c'est voilà Pierre triomphale de manière grandiose en tête de la marche, et on entend le thème de Pierre, mais on l'entend au cors.
Ah, et les cors, c'est le loup.
Et les cors, c'est le loup. Alors, c'est pour mélanger le fait que Pierre, il tient le loup, peut-être, il porte le loup, ou il le porte avec, je sais pas trop comment, mais les cors, à ce moment-là, nous font pas du tout peur. Ils sont triomphants, en fait. Pierre, triomphant, ouvre la marche. Mais finalement, les instruments qui sont utilisés ne sont plus du tout les violons, mais les cors et la trompette qui se jouent ensuite après. C'est assez magique, parce qu'évidemment, il y a plein de messages qui sont envoyés, mais des fois, de manière inconsciente, on les entend, en fait. Oui, on parle du grand-père qui ferme la marche, qui est pas content, mais en même temps, on entend le chat, donc on a bien imaginé que le chat est à côté du grand-père et puis il ferme la marche, en fait.
Vous avez en tête des réactions d'enfants qui vous ont particulièrement marqué autour de Pierre et le loup ?
Moi, quand je l'ai fait à plusieurs reprises dans différents endroits et dans différents pays. En général, quand on fait un concert de Pierre et le loup, les enfants qui viennent voir le concert sont déjà préparés. Mmh. Ils ont déjà reconnu les instruments, ils les connaissent. Ils connaissent absolument par cœur Pierre et le loup. Donc en fait, il y a un état d'excitation. Ah oui, oui, revoilà le loup, voilà le petit oiseau, ah oui, la flûte. Et en fait, voilà, il y a énormément d'émulsions dans la salle. On sent vraiment un public très vivant, évidemment, surtout quand il y a beaucoup d'enfants, mais qui réagissent vraiment à la musique, qui connaissent des fois par cœur les paroles. Alors bon, après, ça dépend dans quel endroit, peut-être dans quel pays, s'ils l'ont beaucoup écouté. Et puis ça dépend dans la langue dans laquelle aussi on fait Pierre et le loup, parce qu'il peut être fait en plusieurs langues. J'en ai fait l'expérience et des fois les frais.
Les frais, c'est-à-dire ?
Ma première expérience, je crois, avec Pierre et le loup, c'était j'étais en cours de direction d'orchestre. Et puis Pierre et le loup est pas très compliqué à diriger pour la musique, mais c'est compliqué pour anticiper toutes les fins de phrase, c'est-à-dire quand le narrateur va finir son chapitre, et il faut que la musique s'enchaîne, et pour que la musique s'enchaîne, il faut préparer le geste sur la fin de la phrase, et donc essayer d'anticiper le débit de parole de celui qui parle, pour pouvoir faire les deux gestes de préparation et de lever, pour faire commencer l'orchestre au bon moment. Et alors, c'est toujours voilà un grand travail de faire ça, donc moi je connaissais absolument par cœur toutes les paroles, pour savoir exactement dans différentes vitesses, exactement quand lever le bras pour être sûr que ça s'enchaîne exactement. J'avais vraiment bien préparé mon truc, et au moment de passer à l'orchestre, il y a un gars qui a voulu aussi raconter l'histoire pendant que moi je passais devant l'orchestre. Je dis, il n'y a pas de problème, moi je suis prêt, je peux le faire dans tous les sens. Et en fait, c'était au conservatoire de Lille, et il a raconté l'histoire en ch'ti. Là,
ah,
j'étais pas préparé.
Ça change tout, le ch'ti ?
Oui, ça change beaucoup, là. Bah, surtout qu'à l'époque, je connaissais vraiment pas. Et puis, en fait, comme j'avais un nombre de syllabes dans la tête qui était prêt, ça ne fonctionnait pas.
On précise, si besoin était, que le chef d'orchestre ne dirige pas le narrateur. Hein. Vous dirigez les musiciens et les musiciennes, c'est déjà beaucoup. Le narrateur,
alors, en fait, oui, ça dépend. On peut montrer. Il y a des narrateurs qui connaissent très bien ça, qui sont très musiciens, qui savent exactement. D'autres qui ont vraiment besoin d'être dirigés. À ce moment-là qu'il faut parler. D'autres qui ont besoin de connaître aussi le rythme de parole. Alors, il n'y a pas un rythme précis qui est marqué, mais il y a quand même particulièrement lorsque le canard va se faire attraper et plus vite, encore plus près, eh bien, il faut pouvoir délivrer dans un certain temps donné, parce que si la musique arrive avant le narrateur, on a raté l'effet. Alors après, c'est aussi au chef d'orchestre de s'adapter en fonction de la vitesse du narrateur, de pouvoir ralentir ou accélérer. Mais en général, quand on est parti dans un accelerando, c'est un peu difficile de ralentir l'orchestre.
Alors, puisque dans cette histoire, les personnages sont des instruments, notre reporter Juliette Proutot a eu l'idée de poser cette question à des enfants et à des ados, parce qu'elle aime beaucoup le piano. Si le piano était un animal, ce serait lequel ?
Le piano, c'est des oiseaux.
Oui, moi j'aurais dit un cygne ou un flamand.
Une vache ? Parce que la vache, elle est plate comme le piano, et elle fait la même longueur que le piano.
Moi j'aurais dit un animal qui a beaucoup de dents. Pour les touches du piano. Une baleine, par exemple.
Le piano, c'est une bonne question.
En fait, le piano, on pourrait dire qu'il peut ressembler à multiples animaux, parce qu'il y a beaucoup de morceaux au piano. qui ressemblent à des animaux, comme le bourdon de Rachmaninoff, tout ça. Du coup, souvent...
En fait, il peut évoquer tout avec n'importe quelle tonalité, n'importe quel mode de jeu.
Mais c'est sûr que le piano, c'est un des instruments les plus joués, je pense.
Et qui peut représenter le plus de choses aussi.
Voilà.
Je dirais le chien ou le chat, peut-être.
Le piano à queue.
Ah. Un éléphant. Parce que parfois, ça fait des bruits d'éléphant.
Un loup. Parce que quand on joue du piano, quand on appuie sur une touche, ça fait comme un pas. Et si on fait grave, ça fait comme des loups avec la musique.
Petite correction, le vol du bourdon est un morceau composé par Rimsky-Korsakov, et pas par Rachmaninov. Mais en tout cas, il y a des oiseaux, un cygne, un flamand, une vache, une baleine, un chien, un bourdon, un chat, un éléphant et même un loup. Il y a toute l'arche de Noé dans un piano, Clémentine Beauvais.
Bah oui, moi c'est mon instrument, alors ça me va comme réponse. Pour moi, c'est un peu l'instrument basique, c'est un chien pour moi.
Alexandre Bloch, ça vous enchante, j'imagine.
Alors moi, j'ai adoré la réponse de la baleine. J'ai trouvé ça génial, avec plein de dents, même s'il n'y a pas des dents. Et puis en plus, avec une histoire de forme aussi, puisqu'on imagine peut-être un peu un piano à queue, j'ai trouvé ça absolument génial. Par contre, j'ai beaucoup rigolé sur celle qui disait justement le vol du bourdon donc de Rimsky et non pas de Rachmaninoff. Mais c'est pas ça qui m'a fait rigoler, c'est le fait que le piano, il peut jouer plein de choses, donc finalement, il peut être plein d'instruments, alors que c'est vrai qu'au bois, on ne joue que le canard. Il faut savoir qu'au bois, on joue plein d'autres choses aussi, et puis à la clarinette aussi, au basson et aux instruments à cordes aussi. Donc c'est ça qui m'a fait beaucoup.
C'est un peu nul, le hautbois, on peut faire que le canard. Alors que le piano, lui, a une palette quand même très large. On a entendu François Morel tout à l'heure. La liste de ceux et celles qui ont lu cette histoire avec un orchestre est assez impressionnante. Il y a du beau monde. Gérard Philippe, évidemment. Fernandel, Madeleine Renaud, Jacques Brel, Claude Pieplu, David Bowie, Jacques Higelin, Valérie Lemercier, mais aussi Alex Vizorek, notre camarade de Par Jupiter sur France Inter. Il a enregistré Pierre et le Loup pour la RTBF, notamment la télévision belge. Vous l'avez fait aussi avec lui, Alexandre Bloch. Voici un extrait avec l'orchestre Est-Ouest pour la RTBF.
Barbatruc.
Est-ce que l'orchestre, vous êtes prêt? Ça veut dire oui, en orchestre.
Allons-y. Écoutez bien, voici l'histoire de Pierre et le Loup. Une histoire pas comme les autres, une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre. Essayons. Par exemple, l'oiseau, ami de Pierre, ce sera la flûte, légère et gazouillante. Non, oula, voilà, bonjour les corps. C'était pas à vous. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas à vous, c'est plus tard. Voilà. Asseyez-vous, détendez-vous. Donc, légère et gazouillante, c'est la flûte.
Voilà, il s'est même autorisé quelques blagues et quelques toutes petites libertés, mais il n'a pas changé l'histoire, surtout pas. Alex Vizorek me disait tout à l'heure qu'il était époustouflé par le succès de cette œuvre. Quel est le secret, à votre avis, Clémentine Beauvais? Pourquoi ça marche aussi bien, Pierre et le Loup?
Parce qu'il y a une cabale des profs de musique. Non, mais enfin vraiment, pour tout ce qu'on a dit depuis le début, d'une certaine manière, enfin que le symboliquement, c'est très très fort, c'est hyper efficace narrativement, il y a rien qui est en trop. La musique fonctionne très bien avec, mais en fait, je suis aussi un peu sérieuse en disant ça, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui se perpétue énormément par la médiation et une médiation pédagogique.
Et les cours de solfège.
Et les cours de solfège, bien sûr, et les cours de solfège et les cours de musique à l'école. Et je pense que, enfin, on peut vraiment pas perdre ça de vue parce que ça fait partie de l'expansion culturelle de cette œuvre.
Et c'est aussi l'histoire d'un lien entre l'homme et l'animal. Hein. Il est important, il est subtil, il est compliqué, ce lien entre Pierre et le loup.
Oui, alors il y a le lien entre Pierre et le loup. Moi, je pense qu'il y a aussi un lien qui est un peu négligé quand on en parle, c'est le lien entre Pierre, le canard, le chat et l'oiseau. Et pour moi, ces quatre personnages-là, ils sont un peu comme une fratrie, en fait. Et bon, c'est des animaux, les trois autres, mais n'empêche qu'ils sont avec Pierre dans une espèce de rapport de grand frère et ses petits frères et sœurs. Il y a les deux qui se disputent de manière assez drôle, d'ailleurs, le petit canard et le petit oiseau, ils sont là, ouais, toi, tu sais pas voler, ouais, toi, tu sais pas nager et tout. Et donc, ils se retrouvent dans cette espèce de lien bien comme ça. Et puis le chat qui est tout comme ça dans les fourrés, machin. Et les quatre ensemble, ce lien-là, il est très fort. C'est un lien de camaraderie animal-enfantin. Alors que le loup, il appartient presque à une autre dimension. Lui, il est plus du domaine de l'extérieur, des chasseurs, même du grand-père. Parce que c'est un animal adulte, d'une certaine manière. Alors que les trois autres, c'est un peu des animaux enfants. Et donc, il y a à la fois le lien entre l'homme et l'animal, l'humain et l'animal, mais aussi le lien entre les enfants et les adultes, qu'ils soient animaux ou pas.
On en oublierait presque que dans la vraie vie, c'est compliqué d'être copain avec des animaux.
Ouais, ouais, surtout apparemment, les canards et les oiseaux, ça va pas. Ils s'entendent pas du tout.
Et le grand-père, qu'est-ce qu'il représente dans cette histoire, d'après vous?
Ah ben, alors, le grand-père, c'est vraiment, par définition, l'interdit. C'est l'interdit du dehors. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de sortir parce qu'il risque de t'arriver malheur. Malheur, n'est-ce pas, Alexandre?
Alexandre, malheur.
qui a dirigé malheur beaucoup. il représente cet interdit-là. On l'imagine avec sa grosse barbe qui dit non, il faut pas. Et évidemment, c'est surtout ça, la transgression. Pour moi, c'est pire qui va transgresser l'interdit du grand-père et donc de toute la société, de toute la culture, de toute la civilisation, de sortir du mur de l'enclos, de la domesticité humaine, etc.
Parmi les nombreuses adaptations de cette histoire, je vous en recommande une. C'est un film d'animation de la Britannique Susie Templeton qui date de 2006. Là, c'est la scène où le chat, voilà, on l'a entendu, le chat tombe dans le lac gelé. Ce film a obtenu le grand prix du Festival du film d'animation à Annecy, également l'Oscar du meilleur court-métrage. L'histoire se passe en Russie. Tous les personnages, humains et animaux, sont des marionnettes. C'est un très beau film sans aucun dialogue. 5 ans de travail au total pour un film de 30 minutes, notamment à la fabrication et l'animation des marionnettes. Le petit Pierre a des yeux bleus acier. Son grand-père, une magnifique tignasse blanche. Un film qui dure donc 30 minutes, il s'appelle Pierre et le loup, tout simplement, et il est disponible en VOD sur le site d'Arte, c'est une merveille. En attendant que revive le spectacle vivant et donc d'aller voir sur scène un orchestre jouer Pierre et le loup, il existe de nombreuses versions de cette histoire en album, en livre CD, en dessin animé. Vous trouverez plein de références sur notre site internet à la page de Barbatruc. Je vous recommande en particulier le livre CD raconté par François Morel avec l'Orchestre National de France sous la direction de Daniel Gatti, édition Radio France. Il existe une suite, Le Retour du Loup, conte écrit par Nicolas Vanier. Et là aussi, c'est un livre CD très beau. La musique est interprétée par l'Orchestre National de France, sous votre direction, Alexandre Bloch. C'était tentant d'imaginer la suite, d'imaginer ce qui se passe après l'arrivée du loup au zoo.
Ben oui, et puis en plus, comme disait Clémentine, pourquoi finalement Prokofiev l'a mis au zoo? Ben voilà, quelqu'un a eu l'idée de le faire sortir du zoo et de le faire retrouver à la fin de l'histoire, justement, les grands pâturages ou les grands prés ou les forêts. Voilà, je pense que c'était tentant de faire découvrir aussi d'autres instruments de l'orchestre, comme le trombone, le tuba aussi notamment, qui n'étaient pas présentés chez Prokofiev, puisque aussi l'orchestre regorge d'autres instruments encore qui sont peut-être un petit peu moins présenté, donc du coup c'était l'occasion avec cette suite de Pierre et le Loup. Je crois qu'il y en a eu d'autres en fait, des suites, mais c'est vrai que j'étais très heureux de pouvoir à plusieurs reprises déjà jouer en live évidemment ce Pierre et le Loup et cette suite avec l'Orchestre National de France, alors parfois avec François Morel, donc en effet aussi parfois avec Alex Vizorek. Et quand vous me demandiez si justement il faut diriger ou pas les comédiens, moi la première fois que j'ai rencontré Alex, depuis on se connaît bien, on a fait d'autres projets ensemble, mais la première fois il m'a dit non, il faut que tu me dises exactement où il faut commencer, tu me dis il faut m'arrêter,
bon élève,
parce que il voulait être bon élève et tout ça. Et bon, depuis il s'est un peu lâché et il vient d'enregistrer avec nous une histoire, un texte qu'il a écrit sur le carnaval des animaux aussi, justement avec l'Orchestre National de Lille, qui sortira bientôt. Donc c'est vrai que il s'est un peu lâché sur la musique, mais c'est vrai que c'était chouette.
Et ce livre CD, je le précise, est un très bel objet, édition Radio France. Vous restez avec moi, Alexandre Bloch et Clémentine Beauvais. On va à présent écouter Denis Chessou qui surveille attentivement les sorties de livres jeunesse. Voici ses conseils de lecture.
Dorothée Barbaz sur France Inter. Là tu lis, mon petit loup.
Merci Dorothée Barba. Mais oui, c'est l'actualité du livre pour enfants qui débute par « Je veux un chien et peu importe lequel » de Kitty Crosser aux éditions Pastel à partir de 6 ans. Millie n'aime ni se lever tôt ni aller à l'école, mais elle a un rituel au petit déjeuner. Une question qu'elle pose inlassablement à sa mère.
Est-ce que je pourrais avoir un chien ?
C'est son souhait le plus cher. Peu importe la race, il pourrait être grand, petit, frisé, rigolo, bizarre, ridicule, qu'importe.
Un grand chien, fort comme papa pour me protéger. Un chien à poils longs qui te ressemble, aussi gentil et adorable que toi.
Ah, quel que soit l'argument, la réponse est la même. C'est non. Ouh là là, la frustration.
À l'école, Lucette, Georgette, Léa, Mauricette et Odette ne font que parler de leur chien.
Ce dimanche, elles se donnent rendez-vous au club des Dogs avec leur chien préféré. Et ça rend Millie évidemment très triste jusqu'au lendemain matin.
Maman, est-ce que je pourrais avoir un chien ?
Quand soudain, le miracle se produit.
Oui, mais on va le chercher dans un refuge pour chiens.
Et là, c'est l'évidence.
Oh, je veux celui-là.
C'est un vieux chien qui ne ressemble à aucun autre et qui ne semble pas avoir une race particulière. Millie l'appelle Prince. Elle est ravie car elle peut désormais retrouver les filles de sa classe au Club Dogs. Mais elle ne s'attend pas à la réaction de Lucette.
Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ?
Tout le monde se moque de Prince et de Millie, même les chiens. Alors Millie commet l'impensable.
Va-t'en, Prince, tu n'es même pas un vrai chien.
Prince s'en va, penaud, en rentrant. Et Millie quand même se rend compte de sa bêtise. Alors elle le retrouve, sain et sauf, s'excuse avant de ramener son chien adoré blotti tout contre elle. Et le lendemain, lors d'une promenade, un vieux monsieur s'extasie devant le chien de Millie.
Oh, mais c'est un chien extrêmement rare que vous avez là. On en trouve seulement sur une toute petite île au Japon. Ils valent une fortune. Vous avez beaucoup de chance.
Et puis le monsieur se penche vers Prince et lui chuchote quelques mots.
Est-ce que ce chien vous parle ?
Ben, bien sûr qu'il parle. Il fait encore plein d'autres choses. Millie n'en revient pas.
Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ?
Ah, la réponse du chien est simple.
Je voulais être sûr de pouvoir te faire confiance.
Alors Kitty Crosser offre un album très étonnant sur le sujet en s'emparant du matériau narratif fertile qu'est l'obstination de l'enfant, hein, quand il veut quelque chose, et surtout quand il s'agit d'un animal de compagnie. L'autrice bâtit son histoire en jouant sur l'attendu, l'inattendu, avec des illustrations tout autant imprévisibles. Je veux un chien, et peu importe lequel, aux éditions Pastel à partir de 6 ans. Thomas est signé Martine Arpin et Claude Cadubois aux éditions 2 à partir de 5 ans.
Quand ils ont creusé un trou dans la terre pour y déposer ma maman, ils ont aussi creusé un trou dans mon cœur, un gros trou vide, aussi profond que l'océan.
Thomas a 5 ans, il a perdu sa mère, alors il marche dans la ville.
Il devait bien y avoir quelqu'un qui savait comment réparer les cœurs brisés.
Il rencontre la couturière, sa maman disait qu'elle avait des doigts de fée.
Je rapièce les pantalons troués, mais les cœurs brisés, je ne sais pas.
Et puis il va chez le docteur. Maman disait qu'il guérissait tout.
Mon petit Thomas, un cœur brisé, ça n'est pas comme une coupure au doigt. Je n'ai pas de pansement pour ça.
Puis il va chez le menuisier. Il savait tout faire, disait-elle.
Un trou dans le mur, je sais faire, mais je n'ai pas les outils pour un trou dans le cœur.
Alors chemin de deuil vers des gens qui connaissaient sa mère et qui tous réparaient. Deuxième partie de l'album, Sepa le ramène à la maison. Sourire avec son père, photo de maman en main.
Maintenant je savais, dans ce grand trou qui avait pris place dans mon cœur, j'ai décidé de mettre de petits morceaux de ma maman.
Il met la douceur de sa voix, l'odeur du feu de camp et de ses guimauves grillées qu'il lui offrait. Il met la chaleur de ses sourires et regard à son père quand il revenait de balade.
J'aimerais bien que Marie, qui est assise juste devant moi dans la classe, se retourne et me regarde comme ça.
Il y met des châteaux de sable, le bruit des vagues, le bonheur à trois. Alors une belle force d'évocation dans ce livre, hein, une lecture douce avec les crayonnés sensibles, très peu de décors de Claude Dubois. Il y a un peu du Ernest et Célestine, si vous voulez, dans le travail graphique, c'est-à-dire l'émotion en force directrice, avec toujours en filigrane la fragilité et l'étonnement face au monde qui nous entoure. Thomas met aussi dans son cœur...
La robe rose de maman, les histoires lues au lit. Le cœur est comblé. Je suis allé voir papa, on s'est serré, fort. Et dans nos sourires, des promesses de bonheur.
Thomas, de Martine Arpin et Claude Dubois, aux éditions 2 à partir de 5 ans. Merci à Xavier Pestudgia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala pour sa coécriture, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci beaucoup Denis Chessou. Toutes les références des livres cités sont à la page de L'as-tu lu mon petit loup sur franceinter.fr. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'ai une dernière question à poser à mes invités, le chef d'orchestre Alexandre Bloch et l'écrivaine Clémentine Beauvais. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance, Clémentine Beauvais.
Eh ben, moi, c'était quand on entrait dans la cave de mes grands-parents qui faisait très très chaud à l'extérieur et qui faisait très très frais à l'intérieur, et il y avait cette odeur de tondeuse à gazon qui mélangeait l'essence et l'herbe coupée et qui était dans le frais de cette cave. Voilà, c'est ça pour moi.
Donc ça sentait la tondeuse.
Ouais, la tondeuse à gazon, ouais.
Même question, Alexandre Bloch.
Moi, c'est une odeur assez particulière de moteur de bateau, parce que j'ai passé beaucoup
de
vacances. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. J'ai passé beaucoup de vacances sur le voilier de mon grand-père, et puis il y a toujours un moment, il fallait bricoler un peu le moteur, et alors là, vraiment, on le sentait dans tout le bateau.
Un peu de gazon et pas mal d'essence. Ces deux odeurs viennent rejoindre notre grand bocal où on fabrique le parfum de l'enfance. Alors, je rappelle quelques-unes de vos œuvres respectives à présent. La Louve, album jeunesse de Clémentine Beauvais et Antoine Després, édition Alice Jeunesse. Préparez-vous, chers parents, à lire, relire et relire cette histoire de petite fille qui se transforme en louve. Elle fascine souvent les enfants. Boucle de pierre, texte de Clémentine Beauvais, dessin de Max Ducot, édition Tsarbacane. Très belle histoire sur les statues des parcs, dont les cheveux de pierre poussent si on ne les coupe pas. Et puis vous publiez dans quelques jours un livre pour grandes personnes, Clémentine Beauvais. Décomposé, édition L'Iconoclaste, un roman en vers libre inspiré d'un poème de Baudelaire. Alexandre Bloch, je vous souhaite bien sûr de remonter sur scène devant un public le plus tôt possible. On peut lire et écouter le livre CD qui raconte donc la suite de Pierre et le Loup. Écoutez également votre CD de Malheur. Malheur, le compositeur, enregistré avec 7e symphonie de Malheur, enregistré avec votre orchestre. Et puis votre salle de concert numérique. On retrouve les références à la page de Barbatruc sur le site de France Inter. Grand merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup et puis à bientôt, on espère.
Bonne soirée et à bientôt. Et merci à France Bleu Nord pour la liaison en duplex.